ça vous dit d'aller boire un verre?
Non, on écoute, vous êtes libre ce soir.
Bonjour, bienvenue pour une nouvelle émission de Vous êtes libre ce soir. Et alors une émission qui va faire discuter, qui va faire du bruit, on espère, puisqu'on va parler de politique. Voilà, on va mettre les pieds dans le plat pour parler du logiciel libre, de la culture libre. Est-ce que la culture libre est politique ou est-ce que c'est en dehors de la politique et ça n'a rien à voir?
On peut amalgamer telle ou telle idéologie politique avec le logiciel libre, parce qu'il y en a qui vont assez facilement.
Voilà.
Donc, est-ce que le logiciel libre d'abord est politique? Eh bien, il y en a qui vont dire oui. Par exemple, le vieux barbu, monsieur Richard Stallman, dont on avait déjà parlé, eh bien, pour lui, le fait d'avoir lancé le mouvement du logiciel libre, c'est quelque chose de très politique, parce que c'est juste une quête de liberté pour être indépendant de toutes ces entreprises qui voudraient vous enfermer dans leurs produits, sans vous laisser le choix ni la liberté de faire ce que bon vous semble.
Voilà, pour Richard Stallman, ce qui est important, c'est d'avoir accès au code source, de pouvoir modifier, de pouvoir utiliser comme on le souhaite, et en soi, c'est politique. Alors moi, je vais avoir le mauvais rôle, je vais parler de ceux pour qui ce n'est pas politique. Donc, c'est-à-dire, on va parler des gens qui sont plus favorables à l'open source. L'open source, c'est quoi? C'est la même chose que le logiciel libre, sauf que ça s'inscrit plus dans un contexte de business ou d'économie. Les gens qui sont partisans de l'open source, c'est des gens qui disent « Les logiciels libres, c'est efficace, techniquement, ça marche très bien, c'est au point, ça fait gagner de l'argent. » Et donc, eux n'y voyaient pas vraiment de connotation politique. Et pour eux, c'est un moyen de faire du business et c'est tout. Et donc, la connotation politique est beaucoup moins forte.
Oui. D'abord, l'idée, en créant le mouvement open source de ces gens-là, c'est de faire oublier l'image du hacker hippie universitaire qui passe pas très bien auprès des costumes cravates, pour justement vendre du logiciel libre et l'importer dans le monde de l'entreprise. Ils ont très bien réussi, on leur est très reconnaissant. Sauf que derrière, ils se limitent à juste de l'informatique
et des aspects techniques,
alors que le logiciel libre sous-tend aussi l'extension de l'échange de savoir à bien d'autres domaines.
Ça les gênera pas de mélanger un coup du logiciel libre avec du logiciel propriétaire, parce que c'est ce qui marche en ce moment, alors que ça gênera plus un partisan du logiciel libre, voilà, pour qui tous les logiciels doivent présenter leurs sources, leur fonctionnement, etc. Alors, il y a plusieurs articles qu'on a trouvés.
Disons, une autre raison pour laquelle on peut dire que le libre va aussi dans le politique, parce qu'il y a, on va dire, une espèce de guerre qui est en train de se faire maintenant que le libre, dans tous ses domaines, est en train de se développer et en même temps en train de menacer les intérêts d'entreprises assez puissantes qui vivaient de la marchandisation du savoir. Par exemple, Microsoft. Bon, Google, c'est notre nouvel ennemi, mais c'est pas grave. On en reviendra plus tard dessus. Mais par exemple, Microsoft, cette année, plutôt en 2009, a annoncé qu'il fermait son service et aussi qu'il abandonnait son logiciel Encarta, la fameuse encyclopédie de notre adolescence avec lesquelles on faisait nos petits devoirs en tant que collégiens. Eh bien, pourquoi je vous le donne en mille? À cause de la concurrence, d'un truc que vous connaissez bien et dont je parle souvent.
Voilà, Wikipédia. Voilà.
Et aussi, ça arrive aussi que les lobbies de la propriété intellectuelle se mettent à l'offensive contre la concurrence qu'ils estiment déloyale du logiciel libre qui, on va dire, casse un peu les prix parce qu'il n'y a plus de licence à payer. Et donc tout ça, ça nous fait une grande guerre dont parfois on voit quelques échauffourées mais qui pourrait devenir encore plus flagrante. Il y a quelques années, justement, il y avait Bill Gates, un homme qui a fait fortune avec du logiciel propriétaire dont il a vendu
des millions de copies
grâce à la vente liée. De toute façon, vous êtes obligé de passer à la caisse quand vous achetez un PC. Donc ce monsieur Bill Gates a assimilé le logiciel libre à du communisme informationnel. Faut savoir que, bon, personnellement, ça me choque pas le terme de communisme, mais aux États-Unis, c'est une terrible insulte.
Ouais, alors peut-être que ce qu'on va expliquer, c'est en quoi effectivement on peut assimiler le logiciel libre à du communisme et en quoi on ne le peut pas. Alors déjà, en quoi on peut l'assimiler à du communisme? Donc ça peut être qualifié de communisme parce que déjà le premier enjeu du logiciel libre, c'est de partager, de mettre en commun, et donc on peut parler de collectivisme des ressources. On peut, au lieu de penser en opposition, en concurrence, on va essayer de se regrouper pour faire le meilleur logiciel possible ensemble. Donc ça a un côté très communiste. Il y a aussi l'aspect...
Disons que la différence par rapport au communisme, d'abord on peut voir une certaine ressemblance avec le slogan de Marx, à chacun selon ses besoins, à chacun selon ses moyens. Et on peut dire qu'à fait avec le libre, on arrive à ça, parce que chacun peut puiser dans ce qui existe et en profiter et prendre son petit profit personnel en utilisant du logiciel libre pour se faire des sous, en récupérant des contenus libres pour se faire plaisir, et en même temps à chacun selon ses moyens aussi pour produire. Parce que chacun produit selon ses moyens. Il y en a qui sont simplement consommateurs de contenu libre, d'autres qui aussi y contribuent. Et ce qui est différent par contre, c'est qu'avec le communisme existant, on a su que c'était des vilaines dictatures qui imposaient une direction très centralisée, tout était planifié. Bon, ça laisse plus tellement de liberté individuelle. Mais justement, dans le libre, c'est tout le contraire. C'est-à-dire...
La propriété est faible. En fait, le logiciel n'appartient pas facilement à une personne définie, mais que chacun peut se la réattribuer. Et par exemple, si je ne suis pas content avec la direction que prend un logiciel, par exemple, il affiche une fenêtre carrée, moi j'en veux pas une comme ça, et ben je peux très bien reprendre le code source, me l'attribuer, modifier le programme. Ou alors, si on a décidé que le programme devait être en anglais et que moi je veux pas parler anglais parce que ça me plaît pas, je peux le traduire dans ma langue et j'ai pas besoin de l'accord de toute la communauté ou d'un accord d'une hiérarchie pour pouvoir faire ça, je peux le faire de moi-même. Donc il y a conservation à condition de pouvoir le faire, bien sûr. Il y a conservation de la liberté de chacun.
Ouais, la différence tient sur la propriété, parce que on va dire qu'un bien libre appartient à la fois à tout le monde et à personne, alors que dans les régimes communistes qui ont existé, il y avait un propriétaire. On va pas dire qu'il était privé comme dans le capitalisme, où là c'est une société avec des actionnaires et tout ça. On va dire que c'était un propriétaire collectif qui était la classe dirigeante au pouvoir, au nom de l'État, qui constituait un seul propriétaire. Il y a aussi une différence, c'est que pour établir le bien commun, là on est plus obligé de spolier les anciens propriétaires en faisant une réforme agraire ou des expropriations, non. Richard Stallman disait cette phrase que j'aime beaucoup: le monde libre est un nouveau continent que nous avons construit pour pouvoir y vivre en liberté. En fait, il n'y a plus besoin de vivre dans le monde des entreprises, du logiciel propriétaire et des contenus propriétaires, mais on va de notre côté, on développe notre liberté dans notre espace à nous, on peut partager notre bien commun en liberté à côté de l'ancien monde, sans pour autant chercher à le détruire, ni à exproprier, parce que fatalement, collectiviser les moyens de production, c'est les retirer à d'autres, alors que bon, dans le monde des idées, dans le monde de l'immatériel...
Il n'y a pas de vol, les autres gardent leur logiciel à eux. Je pense que quand on a parlé de propriété qui n'appartenait à personne, etc., là on se rapproche plus d'un discours qui pourrait être qualifié d'anarchiste. Le logiciel libre a aussi été comparé à quelque chose d'anarchiste. Donc il y a cette idée de propriété, de liberté de participation ou non, qui le rapproche de ces aspects.
Et il y a aussi un côté anti-autoritaire qu'on trouve assez souvent chez les gens du logiciel libre. Bon, on les assimile parfois, pour faire cliché, à des hippies barbus sortis d'un laboratoire d'informatique, même si au départ c'était vrai. Mais il n'empêche qu'il y a toujours une certaine volonté anti-autoritaire dans certains milieux, même si on peut dire que dans le monde du libre, il y a toujours des chefs.
Oui.
Tout anarchie qui marche a une structure d'autorité derrière. Par exemple, par rapport aux gens qui croient que le logiciel libre s'est géré de manière extrêmement démocratique et très, très libérale, sans vraiment de hiérarchie, il y avait un type qui a fait une étude sociologique sur un projet de logiciel qui s'appelle VLC, c'est le fameux lecteur de vidéos qui lit tous les formats et qui est super sympa. Je vous encourage à l'essayer si vous ne le connaissez pas déjà. Eh bien, il s'est rendu compte qu'en fait, la structure était fortement hiérarchique et très liée à l'école d'ingénieurs, c'est-à-dire l'école centrale de Paris, qui en était à l'origine. Tout ce qui se faisait dans ce projet était décidé au sein du milieu assez fermé des étudiants et anciens de cette école centrale de Paris, et qu'au final, c'était à peu près les 4-5 personnes clés qui avaient vraiment le droit de faire évoluer le logiciel. Et que pour quelqu'un qui est un peu débutant, mais pourtant compétent, un peu étranger à ce sérail-là, c'est très difficile de s'insérer.
Moi, je vais quand même pondérer un peu les propos d'Emmanuel, c'est-à-dire qu'effectivement, en logiciel libre, il peut très bien y avoir des chefs, mais on peut très bien faire notre version à nous, enfin, essayer de recréer une communauté divergente de la première, ou alors faire le logiciel seul de son côté. On a toujours cette liberté-là. Donc, en fait, on a la liberté d'avoir un chef, mais le jour où on est capable de ne plus l'avoir parce qu'on veut faire un projet différent, on a la liberté aussi de sortir du groupe pour faire son propre projet.
Après, les communautés se gèrent de façon assez différente. Bah, j'ai en tête par exemple le système Linux Debian, où là le projet est géré de manière démocratique, alors que dans d'autres projets qui sont gérés par des entreprises, par exemple Sun, on sait assez bien que le petit Pékin qui va proposer sa petite idée à Sun, en général on va pas l'écouter, tout va être développé en interne par des gens de l'entreprise qui vont faire leur sauce, qui vont publier leur logiciel une fois et qui vont pas vous donner le moindre droit de regard sur ce qui se fait, ni le pouvoir de proposition.
Des fois, les entreprises font du logiciel libre parce que ça marche bien, c'est à la mode, mais ne sont pas toujours très collaboratives avec les gens qui viennent de l'extérieur pour participer. Et ça nous amène un peu à la page entreprise et aussi à une autre idéologie politique qui est le libéralisme. Parce que même si on a parlé de communisme et d'anarchisme, avant, on peut aussi le comparer au libéralisme. Alors, ça semble peut-être très opposé, et pourtant, il y a des points communs. En particulier, le logiciel libre est très très souvent vecteur de libre concurrence. Déjà à cause des points qu'on a mentionnés précédemment, c'est-à-dire que chacun peut participer au projet et puis s'en séparer pour créer sa propre version. Il n'est pas tenu de rester dans la version d'origine et il peut toujours vendre sa nouvelle version de son côté et donc faire de l'argent avec. De plus, souvent les logiciels libres viennent concurrencer des logiciels propriétaires qui sont parfois en situation de monopole. On peut dire que Firefox, dans le monde des navigateurs, a relancé la concurrence. Microsoft a été obligé de faire un navigateur de meilleure qualité ensuite parce que ça relançait le marché, etc. Et ça peut s'inscrire dans une course économique très libérale.
D'ailleurs, la course économique est à cette propriété-là, du fait que pour entrer dans le marché du logiciel libre rentable, on dirait plutôt de l'open source, eh bien, il n'y a pas besoin d'être titulaire de droits de propriété sur un logiciel, ni d'acheter à un éditeur qui possède le logiciel, puisque ce qu'on rémunère, c'est pas la propriété d'un logiciel, mais plutôt la compétence des gens, leur expertise pour travailler sur un projet.
Voilà.
En cela, le ticket d'entrée sur le marché est beaucoup plus modique.
Alors, on arrive en fin d'émission. Moi, je pense que la meilleure façon de conclure, c'est de revenir aux sources. Comment le logiciel libre a existé? À la base, il a existé parce qu'il y avait des informaticiens, des hackers, qui avaient le besoin de pouvoir créer, de pouvoir utiliser des logiciels, entre guillemets, en liberté, c'est-à-dire en sachant comment ils marchent, en pouvant les modifier, etc. Et donc, pour eux, il y avait un réel besoin et une réelle expression politique dans cet acte. Et je pense que ça résume assez bien la situation actuelle.
Donc, juste pour apporter une deuxième conclusion, on peut pas dire que le logiciel libre c'est du socialisme, ni du libéralisme, ni de l'anarchisme. On va dire que c'est à peu près tout à la fois. C'est pour ça que les gens y retrouvent un petit peu tous ce qu'ils ont envie de retrouver. C'est pour ça que des gens de partis politiques de tous bords aussi y sont favorables, parce que ça a des avantages indéniables. Mais pour essayer de caser le libre dans une case, eh ben, je vous souhaite bon courage.
Voilà, sur ce, au revoir et merci d'avoir écouté l'émission.